Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette deuxième édition de Radio Foot International. Nous sommes en direct et voilà ce qu'on peut dire. Le Paris Saint-Germain qualifié pour la finale de la Ligue des Champions et ce sera PSG-Inter Milan. Une belle finale en vue à Munich dans le stade du Bayern le 31 mai prochain. Les Parisiens se sont qualifiés aux dépens d'Arsenal, victoire 2-1. Fabien Ruiz et Achraf Hakimi sont les buteurs de la soirée et toute une équipe est donc récompensée pour sa belle saison, qualifiée pour sa deuxième finale de Ligue des Champions après celle de 2020 à Lisbonne et nous allons y revenir. Et puis impossible de ne pas parler et de ne pas revenir sur ce match fou d'hier soir et des Nerazzurri qui se sont qualifiés au terme de prolongation avec un scénario aussi fascinant qu'en Catalogne, un scénario de fou. Les Barcelonais ont buté sur le gardien milanais Yann Sommer et ils s'inclinent avec des larmes mais aussi avec les honneurs. Nous reviendrons sur cette finale épique et mémorable. Mais pour l'instant, en direct avec nous dans ce studio, Ludovic Duchesne. Bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'être là, d'avoir assisté avec nous à cette qualification du Paris Saint-Germain. Et puis Nabil Djili est là
Annie,
aussi.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Nabil, merci d'être là. Alors David Finzel, évidemment, est là. Il veille avec Laurent Salerno. Nous sommes les travailleurs du soir. Au rendez-vous, Radio Foot, c'est parti.
Vitinha, son pied droit, c'est parti, Vitinha, au deuxième poteau, ce sera pour Partey, ça va revenir sur un joueur du PSG, Fabien Ruiz, la frappe, on l'a vu ! Et Fabien Ruiz qui vient marquer, quelle reprise extraordinaire de Fabien Ruiz, le pied gauche et l'ouverture du score du Paris Saint-Germain, eh bien on disait une belle occasion pour les joueurs d'Arsenal, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Oh le deuxième but du PSG, la déviation de Dembélé là, je crois que... La messe est dite, c'est Hakimi oui, qui vient marquer ce deuxième but. Il est décisif le Marocain, comme face à Aston Villa. Trossard va rentrer dans la surface, la réaction d'Arsenal. C'est Saka qui vient marquer, qui en renard des surfaces là, avec le Trossard qui est allé chercher le ballon dans les pieds parisiens. C'est fini ici au Parc des Princes sur cette victoire du Paris Saint-Germain. 2-1 face à Arsenal. Et cette qualification pour la finale de la Ligue des Champions.
La fête pour ces Parisiens, la fête au parc, la fête aux abords du stade dans l'ouest parisien et sans doute bientôt aux Champs-Élysées où les supporters se sont donné rendez-vous, les supporters de ce club parisien. Ils seront de la fête à Munich le 31 mai prochain. Ce sera donc face à l'Inter Milan. Cédric De Oliveira, bonsoir.
Salut Annie, salut tout le monde.
Alors, Cédric, tout le monde a suivi ce match grâce à vous sur l'antenne de RFI. Moi, j'aimerais que vous nous décriviez ce qui se passe peut-être encore sur la pelouse ou ce qui s'est passé entre le clou de sifflet final et maintenant. Sans doute des manifestations de joie de la part des joueurs.
Oui, effectivement. Bah, là, il y a encore quelques supporters qui sont réunis avec quelques joueurs là, qui sont du côté du virage Auteuil. On va célébrer cette deuxième finale de Ligue des Champions. Ça n'arrive quand même pas souvent pour le PSG. Ça n'arrive d'ailleurs pas souvent pour n'importe quel club.
Exactement.
Donc quand on voit un petit peu la folie hier à Milan et cette qualification pour l'Inter, eh bien à Paris, on va en profiter aussi parce que le PSG a largement mérité cette qualification à l'aller. Comme au retour, Paris qui va aller chercher, en tout cas tenter d'aller chercher la première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai à Munich.
Mmh. Alors, les joueurs parisiens l'ont emporté. Ils ont, on va y revenir, dominer en tout cas leur adversaire, même si le Paris Saint-Germain aura remporté ce match sur un total de 3-2 avec deux buts marqués ce soir. Mais écoutons. L'un des acteurs de cette réussite, et c'est Achraf Hakimi au micro de nos confrères de Canal+, juste au moment où il recevait le trophée d'homme du match.
C'est incroyable. On voit l'ambiance, les supporters. On a travaillé beaucoup pour ce moment. On est très contents. Et beaucoup de gens n'ont pas cru en nous qu'on va arriver. Nous, on a travaillé beaucoup. On a une équipe, on a une famille. On mérite ce moment. Et tous les supporters, tous les Parisiens, notre famille, tout le monde qui l'a soutenu. Nous, et les moments difficiles, on est très contents, on est fiers de ce match. On sait qu'on va jouer à Inter, c'est une grande équipe, on a vu hier. Et c'est caractéristique. Maintenant, on devait profiter le moment et après, on va bien travailler et on va préparer bien les matchs, la finale qu'on voulait gagner.
Oui, alors pour l'instant, on ne pense pas à la finale. On reste quand même sur cette joie. C'est vrai qu'on a la sensation d'une libération pour les Parisiens d'une façon générale, tant les supporters, mais évidemment que les acteurs, Ludovic.
Il y a eu tellement d'épisodes contraires ces dernières années, des retournements de situation avec le Paris Saint-Germain, que jusqu'au bout, je pense que les supporters ont été fébriles et ont cru qu'ils pouvaient. Quand Vitinha rate son pénalty, tout le monde se dit c'est pas fini, l'Arsenal peut encore revenir. Bon, je crois qu'il y avait quand même, surtout en deuxième période, par exemple, Arteta n'a pas fait tourner son équipe lors du dernier match. Je pense que physiquement, je pense que Paris était peut-être un peu supérieur, notamment en deuxième période. Et sur les deux matchs, ils ont remporté les deux matchs, ils avaient un peu de marge. Et je pense que la qualification est tout à fait logique, avec un joueur pour moi qui aurait été déterminant sur cette, sur, jusqu'en finale, c'est Donnarumma. Mm-hmm. Je pense que tu ne peux pas aller en finale de Ligue des Champions ou la gagner sans un très grand gardien. Il y en a un à l'Inter, il y en a un à Paris.
Mm-hmm. Oui. Oui, oui, bien sûr.
Ça fait la différence.
Oui, oui. À l'Inter aussi, on vous a entendu, Cédric. Nabil,
votre... Pardon, j'interviens.
Ouais, oui, 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 bien sûr. Vous êtes là, on est ensemble dans la discussion. Nabil, votre regard sur ce match.
Au final, c'est une demi-finale, j'ai presque envie de dire, presque tranquille pour le Paris Saint-Germain. Quand vous arrivez à ce niveau de compétition, l'adversité, elle est relevée. Et au final... Je ne sais pas si c'est le PSG qui était trop fort ou Arsenal qui était finalement beaucoup plus moyen qu'on ne le pensait. Certainement un peu des deux, mais c'est deux matchs qui sont extrêmement bien maîtrisés. Au final, ils ont pris un peu la marée sur les 20 premières minutes. Mais c'est vrai que tu as raison de rappeler que Donnarumma, pour le coup, il a fait un peu comme Courtois avec le Real ces dernières saisons. Il vous a maintenu, pas en vie, mais en tout cas, il vous a maintenu clairement devant. C'est normal quand Hakimi dit les gens ont douté de nous, et c'est normal qu'on doute d'eux. Quand on regarde leur première phase de poule, alors il y a l'histoire, le passé, le passif, c'est l'équipe qui a terminé 15e.
Ah, vous en êtes déjà là, Nabil, allez, on repart, on fait le rétroviseur de la saison, quoi.
Je rebondis sur ce qu'a dit Hakimi surtout, parce qu'en fait ça m'a quand même intéressé ce qu'il a dit, et c'est bien que les acteurs se prononcent et disent des choses. Il a dit personne ne croyait en nous. Alors c'est un truc qu'on entend souvent quand les équipes vont
oui, on se nourrit dans l'adversité, et voilà, et personne ne croit en nous.
Il y a des raisons, c'est ce que dit Nabil.
Oui, c'est pas sûr. Parce que c'est contre le PSG, c'est juste que c'est une équipe qui perd quand même beaucoup de matchs en phase éliminatoire, et qui se retrouve face à Liverpool, qui est à un moment considéré comme la meilleure équipe d'Europe. Donc c'est normal à ce moment-là que les gens puissent douter, mais force est de constater qu'ils ont réussi des choses remarquables depuis Liverpool. Ils ont su se faire le dos rond quand c'était compliqué. Ils ont un peu remporté le championnat d'Angleterre. Ils ont mis le dernier clou là sur Arsenal. Ils ont commencé par l'Everest, ouais, ou l'Annapurna comme vous voulez, ou le Kilimandjaro, parce que on nous écoute beaucoup en Afrique avec Liverpool. Ils sont redescendus un peu. Ils ont fait les hauts plateaux avec Aston Villa. Et puis ils sont remontés les deux. Et là, ils ont terminé le boulot, et de manière remarquable. C'est vrai, face à Arsenal, bravo à eux. C'est l'histoire d'une saison qui est pour l'instant réussie.
Mm-hmm. Cédric, vous voulez revenir sur...
Non, je disais... Alors déjà, je tiens à saluer quand même la métaphore filée de Nabil. tout à l'heure, j'ai salué le vocabulaire de Patrick Juillard.
C'est à peu près les mêmes, vous savez.
Il faut reconnaître quand il y a des gens comme ça qui sont au-dessus.
Des jolies images.
Voilà, exactement, des jolies images. Non, mais c'est vrai que pour rebondir et pour abonder dans le sens de Nabil, il y a eu un PSG en phase de poule. Il y a eu ce match face à Manchester City qui a un petit peu tout renversé, qui a permis à Paris de se remettre à l'endroit, parce que si au début de la saison, il faut se rappeler que le
ça
projet,
avait très mal
on disait,
commencé.
Non, mais surtout, on disait, la Ligue des Champions n'est plus un objectif. Hein, on le disait, donc c'était pas pour cette saison. Et après, voilà, ce match contre City a un petit peu changé la saison du Paris Saint-Germain, qui eh bien après a répondu présent à chaque stade face à Liverpool, effectivement le sommet de cette campagne, et puis derrière Aston Villa et Arsenal. Il fallait aller chercher ses qualifications, et en tout cas pour revenir sur cette demi-finale, comme à l'aller et comme au retour, il n'y a pas eu photo. Et moi, je trouve que Paris a su, en tout cas, proposer des visages un petit peu différents de ce qu'on avait vu ces dernières années, notamment le fait de subir et de ne jamais paniquer. Il y a vraiment une sérénité qui se dégage autour du club qu'il n'y avait pas dans les années d'avant. Alors, on pourra débattre de pour quelle raison elle est là, cette sérénité. Mais je dois dire que je suis assez déçu par Arsenal, que j'imaginais tout simplement plus performant, et notamment à domicile. Alors là, il y a quand même eu ces 20 premières minutes, on a senti des Gunners un peu plus tranchants. Mais eux, ils ont pris un coup derrière la tête avec le but d'Ousmane Dembélé à l'aller. Ils ont pris un coup derrière la tête avec les arrêts de Donnarumma et le but de Fabian Ruiz. Et derrière, c'est presque comme s'il n'y avait pas ce talent et ce côté accrocheur que d'autres équipes ont eu. Il n'y a pas eu de buteur, mais aussi même une attitude on va dire conquérante qu'on a pas vu en fait sur les deux matchs.
Nabil, on a l'impression que ce qui arrive à Arsenal là en Ligue des Champions, c'est un peu ce qu'on a vu ces dernières saisons durant leur championnat. C'est un peu à l'image de cette équipe qui, à un moment de très forte compétitivité, domination qui est très forte, et puis qui à un moment a un temps très faible, et malheureusement souvent ça arrivait en fin de saison où manquait finalement l'occasion, que ce soit face à Liverpool ou à Manchester City. Et là, c'est face au Paris Saint-Germain.
Je vais continuer dans les métaphores. Et ce coup-ci, je vais prendre l'athlétisme. C'est comme des courses de demi-fond de 2500 mètres. Mm-hmm. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et en règle générale, la dernière ligne droite, c'est ce qui manque souvent ces dernières années.
Et à l'équipe d'Arteta, c'est ce qui lui manque un peu à chaque fois depuis 2019 qu'il est là.
À la cloche, il commence un peu à piocher. Quoi. Mm. Alors, il y a quand même des éléments d'explication. C'est vrai qu'il y a quand même des absents majeurs du côté de Arsenal. Ça, on ne peut pas l'occulter. Cédric parlait notamment du manque d'efficacité devant, c'est vrai que leurs deux numéros 9, ils sont pas là concrètement.
Mais est-ce qu'ils auraient joué avec Arteta? C'est même pas sûr.
Averts, il aurait joué.
Averts,
il aurait joué.
C'est pas un vrai neuf non plus.
Je veux dire, c'est leur titulaire en pointe qui est pas là. Quoi.
Ouais.
Mais c'est pas Mérigno.
Il avait marqué en phase de poule, mais on le disait, c'était un autre temps, cette phase de poule, cette victoire 2-0.
Mais Arteta joue pas avec un vrai neuf, que Gabriel Jesus,
même
en pleine possession.
Je veux dire, le titulaire à ce poste-là, il est pas là.
Ça peut donner plus de solutions. Là, c'est vrai que.
C'est un vrai talent.
Mais surtout, il n'avait pas vraiment plus de solutions sur le banc. Vous voyez, vous êtes mené 1-0, il tergiverse un petit peu.
C'est étonnant d'ailleurs, un club comme Arsenal, parce que quand tu regardes sur le banc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Devant.
Beaucoup de blessés.
Ouais, mais ils ont beaucoup de blessés parce qu'il y a Partey qui est revenu, Calafiori qui est rentré en cours de match, qui était un titulaire. Il y a Havertz, il y a Gabriel Jésus. Donc c'est comme si on parlait. Alors, Gabriel, je cherche pas de minimiser ce qu'a fait le PSG.
On cherche des explications plus
mais
que des excuses.
C'est comme si t'enlevais Marquinhos, un mec par ligne au Paris Saint-Germain important. C'est ce qu'il
aurait arrivé. Ce soir, il n'y avait pas Dembélé.
C'est ce qui leur arrivait.
Il n'y avait pas Dembélé. Et finalement, le PSG s'en est sorti. Et c'est quand même son meilleur buteur en Ligue des Champions.
Et moi, je pense que c'est pas hasard, Cédric. Je pense que l'une des grandes victoires cette saison de Lucien Riquet et de son staff, c'est qu'il n'y a pratiquement pas eu de blessés de toute la saison.
C'est incroyable,
par rapport aux autres années avec le Paris Saint-Germain, où au mois de février, au mois de mars, il y avait toujours des absents et des grands absents. Là, c'est la grande différence, c'est que l'équipe était... Bon, il y avait Dembélé qui était remplaçant, mais sinon, c'était l'équipe type. Hein. Donc ça fait quand même grosse différence.
Mais c'est vrai que il y a cette gestion, mais il y a aussi peut-être le côté qu'on pouvait décrier au début de saison en disant il n'y a pas de star, moi je veux pas de star, je veux pas une tête qui dépasse. C'est vrai qu'en tout cas
la tête qui dépasse c'est celle de Luis Enrique de toute façon, clairement.
Ce qu'on veut dire, c'est qu'en tout cas il y a pas c'est un style dans la tête des joueurs, c'est pas grave, il y a un mec qui est blessé, final on peut très bien faire sans lui. Forcément le cas avant,
sans Dembélé on voyait pas les gens désespéré en se disant il va nous manquer quelqu'un.
L'année dernière,
pas les psychodrames comme autour de Neymar.
Exactement.
Ou de l'absence de Mbappé, il changeait tout.
Messi à un moment. Bien sûr. On va écouter un homme très symbolique de cette équipe parisienne et on pourra le développer parce que je pense que c'est le trait d'union entre toutes ces années de labeur pour en arriver là. Eh bien, c'est le capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain, le Brésilien et Marquinhos.
Eh ben c'est une émotion très belle. Je pense que le club il a fait pour mériter tout ça. On a fait de beaux travail. Le chemin il était dur, il était long. On a eu des matchs très difficiles, des confrontations très difficiles. Maintenant que l'émotion elle est tombée, je pense qu'il faut profiter un maximum. D'ici jusque-là, préparer de la meilleure façon. Le boulot il a fait pour arriver jusqu'en finale, mais c'est pas fini. On veut plus. On veut vraiment aller chercher ce titre. Profiter ce moment, cette qualification, parce qu'elle était très difficile, et préparer bien pour cette finale.
Une jolie image du capitaine Marquinhos sur la pelouse, hein, avec oui. Nos confrères de Canal+, avec son petit garçon qu'il tenait par la main, qui évidemment a un maillot aux couleurs de son papa. Marquinhos, Cédric de Oliveira, hein, c'est le symbole et le trait d'union entre toutes ces périodes qu'a vécu le Paris Saint-Germain.
Ah ouais, lui là, je vais un petit peu être trivial, mais il a morflé, hein, Marquinhos. C'est vrai que
non, mais il en a connu là,
des désillusions. Il a ah oui, ça, pour ouais. La remontada, là, voilà, un peu la déception originelle, l'élimination contre Manchester, l'élimination contre le Real. C'est vrai qu'il a connu un petit peu toutes ces déceptions. Voilà, c'est vrai qu'il y avait eu cette finale, mais on va peut-être le rappeler, hein, mais cette finale un petit peu particulière, l'édition 2020 sur un final. Ouais. À Lisbonne, donc
oui, il n'y avait pas de match aller-retour.
Voilà,
fait, hein,
c'est presque comme si là c'était. Alors voilà, évidemment que ça compte comme une finale, mais c'est presque contre le Bayern. Mais c'est comme si là je disais, bon, c'est une vraie finale, en tout cas, c'est une vraie campagne de Ligue des Champions.
et à rallonge en plus, hein, c'est vrai qu'on sait qu'il y a eu plus de matchs.
Oui, en plus, oui. Donc c'est vrai qu'il a subi beaucoup de déconvenues et quand on voyait ça. Sa rage à la fin avant, du match, ça faisait
et même
ça
avant
faisait
quand il a rangé tous ses copains oui, bien avant sûr, le bien coup sûr. De siffler.
Après, je dirais que dans le jeu, on atteint peut-être un petit peu la limite de ce qu'il peut apporter. Là, on voit, il s'est un petit peu fait avoir sur le but de Saka, le pressing de Trossard. Quand j'ai vu la scène, je me suis dit. Bon, c'est terrible que ça lui arrive encore à lui parce que c'est sans conséquence pour le PSG, mais voilà, il y a un petit peu toujours ces doutes sur sa capacité à subir la pression en tout cas dans ce genre de rendez-vous et voilà, il y a souvent des faits de jeu qui sont un peu contraires pour lui.
Après oui, après
Ludovic, moi, Marquinhos.
Il est essentiel. C'est vraiment le vétéran. Il y a que c'est l'équipe la plus jeune de cette Ligue des Champions, en tout cas de la dernière phase, et il est essentiel dans le sens où on l'a vu dès l'échauffement. C'est lui qui mène les joueurs, c'est lui qui les compte, c'est lui qui les motive sur le terrain. Il n'arrête pas, c'est lui qui leur parle. C'est des gamins en face. Hein. Il y a Neves par exemple qui a été encore. Je veux en parler parce qu'il est. Je le trouve incroyable, Neves. Il a 20 ans. Ah oui. Il fait un travail sur le terrain exceptionnel. On peut parler de Ruiz aussi qui a fait un très grand match. Mais c'est vraiment des gamins devant lui. Et Marquinhos, il est importantissime dans cette équipe parce que c'est lui le commandant.
Et incontesté donc, par ses. Et voilà, dans son vestiaire.
Puisque désigné tous les ans par ses camarades comme supporter. Alors c'est vrai que Cédric a raison, il a souffert sur certains duels, mais il fait quand même une très grande saison. Et donc il va aller jusqu'au bout. Et si c'est lui qui brandit le trophée, ce sera formidable pour le Paris Saint-Germain.
Ouais. C'est vrai.
Ce penalty manqué par Vitinha, c'était à la 69e minute. Un moment bizarre aussi, parce qu'on s'est demandé d'où tombait ce pénalty. Ouais. Et sur une main intentionnelle ou pas, bon, on en reste toujours à ce débat. Pourquoi rate-t-il ce pénalty ou en tout cas, il est bien arrêté aussi. Ouais,
ouais. Je crois qu'il est surtout bien arrêté et le gardien.
Il est aussi mal tiré, non ?
Alors, non, mais il est tiré comme il les tire d'habitude. Sauf que la différence avec les autres gardiens, c'est que les autres gardiens finissent par donner une indication, même au dernier moment. Et lui, en fait, il n'a jamais donné aucune indication.
Vrai.
Donc lui, il n'a absolument pas changé sa manière de tirer avec le port altier, comme on dit, la tête haute, entre guillemets. Et donc il choisit un côté. Et en fait, je pense qu'il aurait dû en fait mettre une... Quand il voit que le gardien ne mord pas... Il y a un moment, tu ne peux pas aller jusqu'au bout, tu es obligé de frapper.
N'est pas Neymar qui veut, c'est-à-dire qu'à un moment donné...
Enfin, il a quasiment jamais été mis en échec, hein, le Vitinha,
je crois. Ouais, c'est vrai, mais autant Neymar maîtrise ce geste à la perfection, et il est inégalé surtout sur ce genre d'exercice. Ouais. Mais quand tu attends le dernier moment et que tu tires. Neymar, il regarde même pas le ballon quand il va frapper à chaque fois.
Vitinha le fait aussi. Hein.
Vitinha le fait, sauf que là, Raya est rentré un peu dans son jeu. Et c'est lui qui, heureusement pour Vitinha, ça ne prête pas conséquence.
En revanche, ça peut lui mettre le doute à Vitinha pour les prochaines. Et peut-être qu'il faut qu'il varie.
Pas très bien tiré quand même, messieurs.
Non, moi aussi, je suis d'accord. Non, pas
il
n'est
pas bien tiré parce que le gardien ne marque pas.
Ouais, mais quand même,
non,
tu vois.
Il donne beaucoup d'informations.
En fait, lui, il tire comme il tire d'habitude, en fait.
Presque, ouais.
Enfin, honnêtement, il tire toujours de la même manière.
Il lui donne quand même beaucoup d'infos. Il tourne son corps un petit peu. Je trouve que.
Non, mais Vitinha, en fait, il se fait avoir.
C'était pas très puissant.
Non, mais heureusement, de toute façon, vous regardez ses frappes, elles sont rarement puissantes. C'est comme un refus d'obstacle, en fait, ce qui s'est passé. Et en fait, il a, jusqu'au dernier moment, il pensait que ça allait le faire comme d'habitude. En fait, il s'est fait avoir. Et donc, il n'a pas changé sa manière de tirer parce que sa course d'élan, elle correspond à ce qu'il a toujours fait. Mais heureusement pour lui, finalement, c'est anecdotique parce que ça n'a pas de conséquences.
Dans le scénario du match.
Oui. Et je pense qu'on serait en train d'en parler beaucoup plus si ça allait tourner au vinaigre.
Évidemment.
D'ailleurs, Annie, c'est une période où il est moins bien, je le sens quand même, sur le terrain par rapport aux trois, même si on nous avait annoncé un parté genre Yaya Touré, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a dominé le milieu de terrain d'Arsenal ce soir.
Parté, il a fait un gros match quand même. Hein.
Parté, il a donné deux buts ce soir.
Il était
engagé sur les buts.
Avant marque, Parté surtout.
Il s'arrête pas. Vous arrêtez pas, Nabil. Moi, je peux pas vous suivre. Je peux
ça s'arrête jamais, Nabil.
Il s'arrête jamais, en fait. Non, c'est, est... ça va trop vite dans,
il
ça
est
va trop
vite dans sa tête. Quoi. C'est... Il est plus frais que vous. C'est vrai qu'il a pas compris.
J'ai moins parlé que toi, c'est vrai que ce soir. Moi.
Oui, c'est vrai. Mais, non, mais du coup, je trouve quand même que on a vu qu'il colmatait beaucoup physiquement. Il a remporté beaucoup de duels. Alors, c'est vrai que c'est lui qui remet le ballon de la tête. Mais bon, oui, c'est un petit peu cruel pour lui. Mais je trouve qu'en tout cas, le milieu de terrain, et notamment au début de match, a été un peu transfiguré et ça montrait autre chose. Et voilà, je comprenais pourquoi les Gunners et les supporters, le club disaient bon, attendez, on a Partey maintenant, ça va être autre chose.
D'accord, on a Partey, mais enfin, faut amender, faut que ça s'arrête. Tout, on avait l'impression que le gars, c'était tout d'un coup l'un des meilleurs joueurs de la planète. Bah, stop, arrêtons avec Partey. Ouais. C'est un très bon joueur, mais il fallait arrêter à un moment donné.
Mais d'autant que t'as raison, tu sais pourquoi ? Parce qu'il est pas. Forcément titulaire absolu dans l'esprit
d'Arteta.
Mais oui,
mais c'est pour ça en plus.
Ça... Ah si, mais
ah non, avec les attaquants,
il a fait tous les matchs
de saison.
Il a fait tous les matchs de Ligue des Champions. Il était titulaire. Il a pas joué. Il a juste pas joué le match qui comptait pas à la fin de la campagne de phase de poule. Il a raté celui-là.
Ouais, mais avec Arteta, ils sautent régulièrement.
Et quand Avert c'est là, c'est Mérinho qui redescend à trois.
Alors je vais vous ressortir mes petites fiches, messieurs.
Bon,
et
en tout cas,
je vais vous dire que vous vous trompez.
Je suis d'accord, c'est une sentinelle, il est puissant, il a du volume, c'est un très bon joueur.
Oui, c'est un bon joueur.
Mais ce soir, concrètement, il coûte deux buts.
Voilà. Non, puis d'un autre côté, t'avais des Neves, des Ruiz, qui ont marché.
C'est Odegaard, le flop
transparent.
C'est le flop du côté d'Arsenal.
Transparent.
Oui, c'est vrai que lui, voilà, plus décevant. Et on s'attend généralement des petits gestes, on va dire, un petit peu magiques de sa part. En tout cas, trouver des angles pour aller lancer ses partenaires. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi Saka, que j'ai trouvé moins tranchant que ce qu'il aurait pu.
Même si c'est le buteur, le buteur d'Arsenal.
Effectivement. Mais c'est vrai que on l'aurait senti quand même. Juste comme ça, Thomas Partey, il a fait 49 matchs hein, dans cette saison. Donc c'est vrai que c'est pas
combien de
c'est pas trop dans la peau d'un titulaire.
Ouais, combien de titulaires parce que
combien de titulaires,
c'est ça qui compte.
Messieurs, alors donc
Cédric, c'est la petite bête là. Ils sont un peu
énervés. On a envie d'avoir raison. Donc je vais vous dire titulaire contre le PSG.
Peu importe,
titulaire.
Donc
90 minutes deux fois contre le Real. 71 donc titulaire contre le PSV Eindhoven en 8e de finale aller puisque le retour n'a servi à rien puisque il y avait 7-1 au match aller. Titulaire contre l'Atalanta, contre le PSG en phase de poule, contre le Shakhtar, contre l'Inter, contre le Sporting, contre Monaco. Et je vous dis remplaçant contre le Dynamo, match qui servait à rien, et une mi-temps contre Gérone. Mais bon, après, je peux me tromper.
Non, mais c'est un bon joueur, évidemment.
Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'ils espéraient, c'est que ça change le match. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit Maradona tout d'un coup qui tombe dans la
réplique. On avait l'impression, c'est ça qui est.
Non, mais ils s'attendaient certainement à ce que ça change un peu et que ça leur porte bonheur finalement par rapport au match aller où ils n'avaient pas vraiment. Exactement.
C'est bien la preuve de leur impuissance, en fait.
Mais non, mais
si t'attends tout de Thomas Partey, si t'attends de Thomas Partey qui te fasse gagner une demi-finale avec des champions, Pour moi, c'est le problème. Il est aussi là. Ça veut dire que Arsenal.
Nabil, je me souviens que la dernière fois, vous disiez que peut-être qu'ils s'étaient vus trop beaux ou qu'ils étaient au summum de leur puissance après le Real Madrid, après avoir vaincu le Real Madrid et après avoir éliminé le Real Madrid. Arsenal, c'est vrai qu'on les avait mis placés aussi très haut.
Ils ont fait le boulot pour le PSG, surtout. Non, mais en fait, eux, quand ils gagnent contre le Real, leur célébration, c'est on dirait j'ai gagné la Ligue des Champions. Mais je comprends, c'est lié aussi à l'histoire du club qui ne va jamais très loin. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. En Ligue des Champions et le Real,
une seule finale,
et Real, c'est l'épouvantail absolu parce que tout le monde s'est cassé les dents dessus ces dernières saisons et eux font le job.
Donc et Declan Rice a été touché par la grâce au match aller. Et voilà,
c'est vrai que ça a été assez, assez incroyable. Mais ceci dit, c'est un petit peu le danger pour le PSG, même si ça fait 4 demi-finales en 6 ans et que ça dit quand même quelque chose, une forme de régularité, mène de rien, même si les projets n'étaient pas les mêmes, même si les joueurs n'étaient pas les mêmes. Bon, quand même, ça veut dire qu'on s'installe et en tout cas voilà, il faudra peut-être que ce PSG arrive à gérer le fait que on n'est pas arrivé au bout de l'histoire, en tout cas s'ils veulent aller vraiment la chercher le 31 mai.
Écoutons la parole un peu au vaincu et en l'occurrence l'entraîneur de cette équipe d'Arsenal, Mikel Arteta.
D'abord, félicitations parce qu'ils se sont
battus, ils ont reçu un feedback from them
meilleur que nous.
We were much better than them.
But, pour moi, on était meilleurs, mais ils ont l'homme du match sur les deux matchs. C'était le même joueur à chaque fois, leur gardien de but.
So that tells you the story of what
voilà, c'est ça l'histoire de ce qu'il s'est passé sur les deux matchs. Je suis fier de nos joueurs, de ce qu'on a fait.
And we play with so much character,
on a joué
courage,
avec beaucoup de caractère, beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence.
Et
la réalité, c'est le résultat, il est différent, c'est and comme ça cette compétition. À cause de mon passé ici, j'espère que finalement, ils vont gagner.
Ah bah, très sport, Mikel Arteta, pour dire qu'il souhaite la victoire du PSG. Oui,
très classe, et ça fait aussi écho, puisqu'on a eu la chance d'avoir Mohamed Salah en interview pour France Football à partir de ce samedi, qui a eu exactement les mêmes mots, et qui dit qu'à la fin du match, bon, évidemment, il va les voir, il les félicite, et surtout, il leur dit « allez chercher cette coupe » et tout. Donc, je trouve que c'est quand même des choses qui sont sympas à entendre.
Oui, mais en Angleterre, vraiment, les Parisiens sont comblés de louanges. Et je pense qu'il y a toute l'Angleterre sera pour le Paris Saint-Germain, paradoxalement. Mais sérieusement, je pense que cette équipe, elle plaît énormément. Il y a énormément de qualités aussi.
C'est
après,
vrai.
L'Inter a aussi des qualités incroyables. Hein, donc,
oui, on aura le temps de se projeter.
On l'a vu. On l'a vu hier.
Merci.
Mais c'est vrai que c'est depuis cette élimination contre Liverpool, en tout cas, je crois que tous les suiveurs, et notamment au match aller, même si
tu as raison.
Mais vraiment, et tout le monde a été impressionné par la qualité du PSG. Quand on avait été à Liverpool, on avait senti en fait que, alors qu'ils avaient gagné le match aller, ils étaient là, mais en fait, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais joué une équipe comme ça de la saison. Et je crois que ça avait beaucoup impressionné tout le monde là-bas.
Et un mot quand même pour l'architecte, même si on en a parlé tout à l'heure, Luis Enrique, dont on a souvent dit qu'il avait gagné une Ligue des Champions parce qu'il avait Messi, Neymar et Suarez. C'est vrai, c'est ce qu'on avait aussi collé à Guardiola avant qu'il regagne la Ligue des Champions. Pour lui, c'est quand même c'est son succès avant tout là. C'est, cette histoire
de son travail,
de son travail.
Parce que
il y aura pas beaucoup de détracteurs. Là, il y aura moins de détracteurs. Du coup,
ils font une demi-finale l'année dernière et ils font la finale cette année. Donc c'est quand même un travail. Alors il dit je veux voir progresser mon équipe. Il la voit progresser. Elle va plus loin encore. Mais c'est vrai que c'est le travail de Luis Enrique. Pour terminer, messieurs, je ne sais pas si vous pouvez encore rester quelques secondes avec nous, Cédric.
Je voulais parler
de Achraf Hakimi, homme du match. Homme du match qui fait partie du trio et possible vainqueur du prix Marc-Vivien Foé. C'est 3 buts, 5 passes décisives cette saison en Ligue des Champions.
Ah, c'est un attaquant, le distade d'attaquant.
D'ailleurs, c'est vrai que son but
a été incroyable. On a vu, je le disais pendant la retransmission avec Patrick Julien, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il court, qu'est-ce qu'il galope, il n'arrête pas. Ça doit être infernal de défendre sur lui parce que, je veux dire, il a quand même un volume de course et il a été interrogé d'ailleurs hier en conférence de presse là-dessus. Et c'est vrai qu'il reconnaissait que c'était une de ses forces et il a toujours eu ses capacités physiques, mais il n'arrête pas. C'est des appels incessants et puis parfois il arrive en plus à se retrouver en position de frappe et il est très adroit. On l'a vu contre Aston Villa. On l'a vu ce soir aussi, il est en magnifique position, il a marqué ce deuxième but.
Et il fait comme Luis Enrique, quand il gagne, eh ben, il parle français, et il le parle il plutôt parle bien.
Après, sur les capacités pulmonaires...
Il est très ému, là, je l'ai entendu tout à l'heure,
très ému.
Alors, sur les capacités pulmonaires, bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais il paraît que les gens d'Afrique du Nord ont des gènes exceptionnels. C'est vrai qu'il y a des champions marocains, algériens, Aouita, El Guerrouj, Khalid Ska...
Vous êtes meilleur avec les mots qu'avec votre cardio.
Ah bah moi, franchement, j'ai été oublié. C'est un vrai fiasco. Ouais. C'est un vrai fiasco.
Il faut miser sur ses forces, hein, Nabil. Hein,
Pourtant, tu vas à la salle souvent, Nabil. Mais bon, après,
la salle, c'est pas. Non, mais après, il y a. Mais non, mais Hakimi, c'est extraordinaire. Allez, et on aura un match. Alors. Et on aura un match quand même en finale, même si on va pas commencer à déflorer le truc. Mais Dumfries d'un côté, Hakimi de l'autre, les deux sont exceptionnels.
Mais je pense que
Hakimi, les deux pistons là, ça va y aller.
Ouais. Je pense qu'Hakimi, c'est l'un des plus grands athlètes du football d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un athlète. C'est-à-dire que
après Cristiano Ronaldo,
mais ce qu'il est capable de faire sur un terrain, les courses à haute intensité, parce que faut voir un peu les courses qu'il fait. Il traverse tout le terrain et à quelle vitesse. Il le répète à tous les matchs et jusqu'à la 90e. Je pense que c'est vraiment l'un des plus grands, deux, trois plus grands athlètes du football d'aujourd'hui. Il est phénoménal et jamais blessé, jamais un souci. Il marque, il défend, il est. En fait, il
positif.
Est partout, c'est un mec incroyable.
Positif.
Un mec incroyable.
Très, très sérieux, en tout cas, il dégage cette sensation.
Bah moi, j'ai une anecdote. En tout cas, on voit que vous avez fait votre choix pour le prix, Ludovic.
Alors, je vais te dire, Cédric, j'ai voté pour lui. Mais moi, tous les ans, je vote Hakimi. Donc, je fais très logique avec moi-même. L'année d'avant, j'avais aussi voté Hakimi. Il n'avait pas gagné le trophée. Non, mais c'est un joueur que j'adore. Je trouve qu'il est incroyable. Mm-hmm. Il a tout pour lui.
Cette année, encore plus. Et effectivement, il est très, très attendu.
Non, mais c'est un joueur incroyable. Moi, pour la petite anecdote, c'est toujours des souvenirs très personnels. Moi, je l'ai vu pour la première fois avec le Real Madrid au Camp des Loges en U19 pour un match de Youth League. Et je peux vous annoncer que c'était un enfant, une crevette par rapport... Si on m'avait dit à ce moment-là que ça allait être Marathon Man et qu'il allait avoir comme ça...
Trois poumons
et puis large, il est large et
il
tout.
Il devait déjà aller vite.
Honnêtement, je l'ai vu, il m'a fait... Enfin, ni plus ni moins, quoi. Et quel joueur c'est devenu, quoi. Enfin...
Il est passé par l'Inter aussi, c'est une finale.
L'Inter, Borussia
Dortmund pour lui. Hein.
C'est vrai. Une saison à l'Inter.
Ouais, avec Antonio Conte dans un 3-5-2, où il avait été fantastique. Il a fait Dortmund également.
Voilà.
Et puis le Real. Et puis il avait été barré. C'est Zidane qui l'a lancé, on le rappelle. Et il avait été barré par. Aidez-moi à prononcer son nom, j'y arrive jamais.
Carvajal.
J'ai un blocage avec ce nom.
C'est pas le plus compliqué. Je vais vous lancer sur Carvajal.
C'est la rota,
allez voir.
C'est pour ça qu'il part. Hein.
Ouais. Bon, pour terminer, je vous propose d'écouter une petite ambiance et une ambiance entre les joueurs du Paris Saint-Germain et leur public qui commémoraient ensemble. Vous les avez vus, Cédric, mais là, on va les entendre et c'est pour nos auditeurs.
Allez.
Se casser la voix. Bon, bah, vous n'avez pas la voix cassée, Cédric. On vous laisse.
Pas encore, je ne vous garantis pas demain. Hein. Je ne sais pas, on verra.
On ne sait jamais. On sait, en tout cas, bon travail, bonne fin de soirée
aussi.
Au Parc des Princes. Oui. Allez, nous, on continue.
À bientôt.
Merci beaucoup, ciao. Cédric. Et on va se permettre d'écouter l'entraîneur de ces Parisiens, toujours au micro, hein, et grâce à nos camarades de Canal+, on va l'écouter, c'est Luis Enrique.
Trop émotion, trop énergie, pour quelle souffrance de match. Arsenal a joué très bien et ils sont capables de porter le match à son force. Et nous avons... Et où l'opportunité de défendre tous les temps et chercher de faire quelqu'un contre-attaque. C'était très difficile. Ce n'est pas les matchs que nous voulons, mais je pense qu'on a fait un extra effort pour chercher des solutions et c'était difficile.
C'était difficile, mais ils ont réussi, les Parisiens. Ils sont en finale et ils joueront contre l'Inter. Justement, revenons sur ce match complètement dingue d'hier soir.
Infinita! L'Inter est in finale di Coppa dei Campioni! Ha battuto il Barcellona 4-3 in una partita memorabile, in una partita incredibile.
incredibile.
Incredible, et on apprend des mots italiens, mais ça c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Jamais une demi-finale de Ligue des Champions n'avait été aussi prolifique. 13 buts en deux matchs. Et finalement, c'est l'Inter donc de Milan qui se qualifie en inscrivant deux buts qui vont crucifier la jeunesse de Barcelone. Les adjectifs et superlatifs emplissent ce matin la presse italienne, m'a dit Matteo. Et pas seulement, hein, partout sur les réseaux sociaux, ici en Europe, dans les journaux européens, on a pu lire merveilleux, historique, légendaire, irréel. Un attaquant retraité mais fou de foot, un certain Gunner, Thierry Henry, Elgas, a voulu remercier les acteurs de ces rencontres sans doute inoubliables.
Look, I said it. I've been bored watching football recently.
En regardant le football depuis quelques années, je m'ennuyais. Et oui, je m'ennuyais.
So thank you Inter and thank you Barcelona.
Alors merci l'Inter et merci Barcelone.
Come on. Rafinha.
Regardez, Rafinha pensait avoir fait le nécessaire. Et puis Acerbi égalise et ramène son équipe en prolongation. Et là, Lamine Yamal peut faire gagner son équipe à la toute fin. Alors je le redis, merci. C'est pour ça qu'on aime le football. Merci Inzaghi, merci Flick et merci à toutes les personnes engagées sur cette rencontre. Car récemment, je m'ennuyais en regardant le foot. Depuis hier soir, je ne m'ennuie plus.
Alors, David Finzel,
c'est David Finzel qui l'a dit. J'ai pas compris. C'est David Finzel qui parlait. Ou c'est...
Alors, je crois qu'il traduisait théoriquement celui qu'il admire tant et qui est Thierry Henry. Mais c'est vrai que c'est tout ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux hier. Merci. Je me souviens que la semaine dernière, on avait commencé comme ça l'émission en disant merci les artistes parce que vraiment, on a hâte de la semaine prochaine.
Deux matchs de suite comme ça.
Non, mais
franchement,
deux
c'est extraordinaire.
Vous, Eric, qui êtes un ancien joueur, est-ce que... hier, on se demandait dans l'émission à la même heure, est-ce qu'on aura le même scénario? Et on a eu pratiquement le même scénario, c'est impensable.
Mais c'est incroyable, parce que l'Inter, ils mènent de 2-0, tu te dis, ouais, ils ont encore fait la différence et tout ça, et derrière, ça, il se passe la même chose. Non, mais franchement, ce qui est incroyable, c'est de faire abstraction, justement, parce qu'on prend toujours, quand on est joueur et qu'il se passe des scénarios comme ça, on prend toujours un coup quand même derrière la tête. Quand tu perds 2-0, c'est jamais anodin. Mais eux, ils n'ont pas calculé, ils sont tellement sûrs de leur force, et ils sont revenus facilement dans le match, ils ont inversé un peu le score, et... Ça a été incroyable, franchement, c'est ce qu'ils ont proposé, et avec cette insouciance, j'ai envie de dire, quelque part presque du score, parce que finalement, c'était ils ont laissé aller leur qualité et ce qu'ils ont amené techniquement, mais dans le spectacle, dans la performance. Franchement, chapeau pour les deux équipes aussi. Hein.
Elgas, est-ce que c'est pour ça qu'on aime le football?
Bah, absolument. Moi, j'ai envie de dire, comme Thierry Henry, grazie mille. Parce que hier, on était, mais vraiment, je pense que les superlatifs ne sont pas trop. On était en extase devant ce match. Le scénario, la qualité technique, les actions individuelles, parce que le malheureux, le tragédien dans l'affaire, c'est Lamine Yamal. Il sort un match majestueux. Il touche le poteau. Il y a le gardien de l'Inter qui fait un arrêt mais extraordinaire. Et puis, on a tout. On a même cette scène-là que j'ai trouvée magique. Le buteur victorieux du match, Fratesi, qui donne d'ailleurs lieu à des jeux de mots un peu médiocres, Fratesi d'Italia, comme lui.
Évidemment.
Mais il s'effondre à un moment donné, et il dit qu'il y a sa tête qui tourne.
Il fait le signe.
Alors il a fait un sprint pour aller embrasser
les supporters.
Il a dit pourquoi c'était. Il a dit parce qu'il avait tellement crié.
Oui.
Tellement crié sur le but que.
Qu'il était sourd.
On va l'entendre d'ailleurs, Fratesi, parce que David des Fratesi, qui effectivement a failli avoir un malaise de joie.
J'ai tellement crié après le but que ma tête tournait et que je voyais tout en noir. Mais c'est passé, j'ai eu de la chance de terminer le match. Après le but à Munich, je ne pensais pas pouvoir revivre une telle émotion. Et pourtant, ça s'est reproduit, c'est dingue. C'est la beauté du football. Pour ce qui est du but, ça fait partie de ma carrière. Je n'ai peut-être pas eu un talent incroyable, mais je suis toujours le premier à y croire et le dernier à abandonner. Mon dévouement a été récompensé. À 3-3, je n'arrêtais pas de dire à Marcus Thuram, ne t'inquiète pas, on va passer. C'est l'incroyable de ces produits.
Passiamo noi, sei tranquillo, passiamo noi.
Fratesi, tiro! Ha segnato l'Inter! Davide Fratesi!
Vainqueur.
Mais c'est formidable, mais celui qui résume tout ça formidablement, c'est Bill Shankly, le père de Liverpool. Le football, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus. Et on l'a vu hier.
Philippe, une question. Est-ce qu'on tire des enseignements d'un match pareil?
Ah oui, beaucoup. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais par exemple, je pense que pour Barcelone, c'est une leçon formidable qui peut alors servir pour les prochaines années. Ils ont une équipe encore jeune, ils se sont aperçus que ils avaient eu des lacunes parce qu'ils avaient dominé quand même les deux matchs. Globalement, ils ont dominé les deux matchs. Si à l'arrivée, tu prends 7 buts, c'est qu'il y a quand même des failles. Tu arrives à marquer 6 buts à l'Inter, ce qui est quand même incroyable, et tu réussis à ne pas te qualifier. Donc je pense que, par exemple, pour le Barça, oui, il y aura des enseignements très importants qui est que peut-être qu'ils seront peut-être moins spectaculaires les prochaines années, mais plus forts, plus compacts. Moi, je pense qu'on a aussi des matchs comme ça parce qu'on a des équipes qui ne sont pas fini complètement. On n'a pas de Real Madrid, on n'a pas de Manchester City cette année. On a des équipes un peu moins fortes à mon avis, moins installées si vous voulez, et qui du coup maîtrisent moins les scénarios et qui du coup partent dans des délires.
Mais
on a vu le PSG
pourtant
à Birmingham.
Non, il y a moins d'expérience dans la gestion d'un match.
Mais c'est quand même la fin presque d'une histoire, non? Ils étaient en finaliste il y a deux ans. Non, il y a de l'expérience, il y a de l'âge.
Ah non, mais il y a tout ce qu'il faut, mais ils ne maîtrisent pas une équipe comme Barcelone qui leur pose d'énormes problèmes.
L'Inter 2025, c'est Chelsea 2012. C'est Chelsea qui, depuis 8 ans, essaie d'arracher la Ligue des Champions et qui arrive en bout de course à une équipe qui est vieillissante. Mais ils ont cette force-là qui les porte tout au long du parcours. L'Inter, c'est ça. Hein, parce que contre le Bayern, ils peuvent être sortis. Ils se sont fait bouger dans tous les sens. On disait que c'était la meilleure défense d'Europe en phase de poule. Ils n'ont pris que 2 buts en 8 matchs et 3 en 10 matchs. Uh-huh. Et là, ils en ont pris 7 en deux confrontations face au Barça.
Ah, mais ils ont marqué autant de buts. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre quand même derrière. C'est cette capacité à marquer des buts alors que tu en prends, c'est pas aussi anodin que ça.
Justement, est-ce que c'est finalement une sorte de football, je sais pas, le football total, mais où on marque autant qu'on encaisse et où finalement c'est aussi le summum d'un certain art qui est pas celui, par exemple, enseigné par Mourinho, de on se met derrière, surtout on n'encaisse rien et on gagne.
Il y a plus d'approche tactique là. À partir du moment où l'Inter mène 2-0,
Inzaghi, je pense qu'il y avait de la tactique.
Non,
là.
Mais sûr, il y a de l'approche tactique, mais
il y a une base.
L'approche tactique ne compte plus là. C'était humain en fait comme match. C'était sur les ressources mentales à un moment donné. La deuxième mi-temps, l'Inter, mais ils sont sur les rotules, ils sont cuits. Ils sont dans la lignée des 3-4 dernières semaines où tous les objectifs sont tombés un à un. Et on s'est dit, ils vont s'écrouler, ils vont encore laisser échapper ça. Et ils trouvent des ressources en fin de match pour aller arracher la prolongation. C'est plus tactique, c'est plus technique, c'est plus... Pourquoi la Serbie, il est avançante pour marquer ce but décisif?
C'est le chaos physique, le chaos technique. Les organismes sont complètement éprouvés à un moment donné. Il n'y a plus de tactique qui tienne. Et puis sur le Real, je ne pense pas que le Real ait brillé ou gagné des Ligues des Champions par une maîtrise, je mets ça entre guillemets. Mais parce que quand on a regardé la finale contre Dortmund l'année dernière, le Real, ils sont dominés. Ils sont dominés même assez sérieusement. Et c'est des coups d'éclat parfois qui produisent... Justement,
ah oui, on
des
se souvient moments, quand il s'était qualifié magiques. Contre le PSG.
C'est miraculeux.
Je me souviens pas.
C'est la force mentale. Et puis, à un moment donné, je veux dire, on peut mettre toutes les tactiques que l'on veut, tous les scénarios que l'on veut. À un moment donné, il y a le facteur humain, comme disait Bruno, qui joue. Et ce chaos-là, c'est ce qui est à la fois formidable pour le spectateur ou pour le téléspectateur, mais qui est terrifiant pour le coach au bord du terrain.
Parce que là, ça aurait pu vaciller des deux côtés. Ça vacille des deux côtés. Il n'y a même pas d'échec là, dans la demi-finale. Le Barça n'a pas échoué. Ils ont fait un match fantastique.
Oui.
Moi, j'ai envie de voir ce Barça-là tous les ans, même s'ils sont déséquilibrés. Ils sont déséquilibrés parce qu'il manquait aussi beaucoup de défenseurs, les deux latéraux, un axial. Voilà, il y a aussi ça, les absences.
On va écouter Hansi Flick, l'entraîneur malheureux donc, de ces Catalans. Et on l'a vu un peu en état de choc sur le banc de touche. À un moment, il s'est dit, mais c'est pas possible, on mène 3-2 et on va perdre cette qualification. Ouais. Il était un peu sonné, cet entraîneur, assommé et même un peu mauvais joueur.
Nous sommes évidemment tous très déçus car nous avons tout donné dans cette rencontre. Nous sommes revenus dans la partie, mais parfois c'est comme ça. Et puis on ressent un peu d'injustice aussi parce que je pense que certaines décisions de l'arbitre n'étaient vraiment pas en notre faveur. Mais bon voilà, c'est le football. Quoi qu'il en soit, je suis très très fier de mon équipe. On accepte ce résultat et nous repartirons la saison prochaine pour gagner la Ligue des Champions. C'est l'un de nos objectifs. et puis aussi pour les supporters, parce qu'ils nous ont soutenus ici, dans ce stade, une ambiance incroyable. Ils méritaient aussi, évidemment, cette victoire, mais bon, croyez-moi, nous reviendrons l'année prochaine en Ligue des Champions.
Next season in the Champions League.
Bon, ça, on le croit bon, qu'il reviendra l'année prochaine.
C'est obligatoire.
Il y a 6 équipes par championnat.
Le championnat ils ont un match important quand même, attention.
Eric, il est mauvais joueur. Ils ont un classico durant le week-end. Et ils ont un titre, surtout en ligne de mire. Il est mauvais joueur, il accuse l'arbitre.
Non, mais oui, surtout là. Simoniak, non, mais après, il y a des fois, évidemment, qu'il y a des scénarios où tu te dis, l'arbitre, là, sur cette action. Mais là, à aucun moment, je suis désolé, le pénalty, il est valable. Et après, à aucun moment, dans le match, par rapport à une situation un peu floue, parce que sur le but de Acerbi, là. Il n'y a pas faute. Le mec, c'est lui qui se prend un peu les pieds, qui fait un mauvais geste technique parce qu'il rate le ballon.
Il y a une grosse erreur du VAR le pénalty annulé sur Yamal. Mais comme ils ont marqué après le Barça, on peut dire que bon, ça n'a pas eu une influence déterminante. Mais à mon avis, c'est une énorme erreur d'arbitrage.
Là, tu peux pas dire.
Ils ont eu les occasions. C'est juste qu'ils sont tombés aussi sur un gardien qui était fantastique. Et moi, la différence des deux équipes, c'est le gardien en fait. Vous avez un super gardien d'un côté, Sommer. Et
il fait pas d'exploit.
Et c'est en état de grâce.
Et c'est
Chny
qui sort de la retraite, qui était sur la plage il y a 6 mois. Et le pauvre, on le met dans le grand bain.
Mais il n'est pas si mauvais. Il y a eu des matchs où on a trouvé qu'il était très bon.
Oui, mais pas sur les deux matchs. Là. Il n'a pas été extraordinaire.
Il a pris
7 buts. Il a pris 7 buts sur 9 tirs cadrés en 2 matchs. C'est beaucoup. Contre l'Inter, c'est quand même beaucoup. Il a arrêté, il a fait 2 arrêts.
Les amis, parlons quand même de celui qu'on a tous vu pendant ce match et qu'on a tous envie de revoir. Bah oui, Philippe, parlez-nous d'Lamine Yamal. C'est quand même 17 ans et son deuxième match avec le Barça. Et même si il a été moins chanceux qu'au match aller, ou au match aller, on l'avait vu même physiquement sonner la révolte. Là, on l'a pas vu le faire physiquement. Et en même temps, c'est lui qui, sans arrêt, tout se joue sur son côté d'ailleurs.
C'est incroyable. Incroyable, oui, au point que Rafinha finalement a été à la portion
congrue. Le fameux but,
il
le
a marqué
3e.
Le but, mais on l'a pratiquement pas vu Rafinha parce que tout se passait
tout
à droite.
À droite.
Même
tout
si
se
c'est 13 buts sur cette Ligue des Champions.
Oui, certes, Rafinha. Mais bon, les chiffres c'est bien, mais dans les matchs importants, il n'y a que Yamal qu'on a vu. Même si hier soir il a pas marqué, il a été incroyable à 17 ans, prendre la balle à n'importe quel endroit du terrain et créer des choses comme il l'a fait.
Même quand il n'y a pas d'espace.
Honnêtement, j'ai jamais vu ça.
Et même en fin de match,
je n'ai jamais vu ça à 17 ans. J'ai pas connu Pelé à 17 ans, dommage. Du monde
quand il reste quelques minutes dans un match de basket, on donne le ballon au meilleur joueur, à Michael Jordan, parce qu'il va mettre le dernier panier. Là, on donnait systématiquement le ballon à Lamine Yamal. C'est déjà.
Il se passait quelque chose.
Il y avait du danger. C'est ça le truc. C'est qu'il y avait du danger. Son pointu sur Sommer, là, il le rate. Mais s'il le met bien droit, certainement il veut le mettre. Ça fait but, mais voilà, c'est des petits détails, mais je pense qu'avec l'expérience ça va arriver vite.
Après, c'est peut-être bien pour lui qu'il n'ait pas gagné la Ligue des Champions, parce que si l'été dernier il gagne déjà l'Euro, même pas 18 ans, il gagne déjà la Ligue des Champions à pas 18 ans.
C'est trop.
Il a perdu sa carrière.
Alors, sur la question de la précocité et tout le reste, bon, Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans. Après, il court derrière la Ligue des Champions. Aujourd'hui, donc mieux vaut accumuler et sécuriser.
Ça serait bien de le ménager. Hein. Ça serait quand même bien de le ménager un tout petit peu.
Ouais, je pense. Parce que
qu'il
là,
joue
franchement,
quand même 102 matchs.
On a peur pour lui.
À pas 18 ans.
Mm-hmm. Coup de chance, il n'est pas à la Coupe du Monde des clubs.
Oui.
Ouais, coup de chance.
Oui, le FC Barcelone ne sera
sinon,
pas.
Sinon, ils auraient pu lui faire une Pedri qui avait explosé.
Pedri, Gavi,
Ansu Fati. Mais surtout Pedri, l'année où il joue les JO, l'Euro, les JO, plus une saison complète à Barcelone. Et après, il était absent un an et demi.
C'est un problème pour les coachs quand on a un tel joyau.
Qui
fait autant de différence, qui est clairement un des meilleurs joueurs du monde.
Et qui veut jouer tout le temps.
Qui veut jouer tout le temps. Et puis qui a cette insouciance. Et puis, à 17 ans, on peut faire des coups d'éclat. Ok, c'est normal.
On peut se décolorer les cheveux.
Exactement, on peut se décolorer les cheveux.
Comme ça, on le voit bien.
Mais c'est surtout, il y a très peu de déchets dans son jeu. Il a une grande maturité, c'est-à-dire quand il voit que c'est bouché, qu'il ne peut pas y aller, il a justement l'intelligence de revenir, de jouer. Moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est ce joueur.
Il y a une maturité qui
est maturité déjà impressionnante, et puis le génie, bon, qui est inné, c'est de l'ordre du don, quoi.
Et le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Il retrouvera le 31 mai prochain l'Inter de Milan. Et cette qualification, nous y reviendrons demain dans Radio Foot. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette longue soirée de football. À demain.